Tu connais le club Backseat? Avec un abonnement à 15 euros par mois, tu peux intégrer ce club très fermé et bénéficier de plein d'avantages. Parmi eux, ton nom au générique de l'émission, la VOD YouTube en avant-première dès le vendredi matin, les vidéos bonus en avance, l'accès aux débriefs, mais surtout, la possibilité de venir dans le public gratuitement à la dernière minute, l'invitation à des événements VIP et une magnifique carte de membre ultra collector. Le club Backseat, c'est le plus grand soutien que tu puisses apporter à l'émission, alors je te donne rendez-vous sur KissKissBankBank, le lien est en description sous la vidéo. Tout de suite, ta VOD.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir, bonsoir le public, merci d'être là, vous êtes extraordinaire, vous êtes magnifique, merci beaucoup, bienvenue sur Backseat, chers amis, bonsoir à vous si vous nous regardez sur Twitch, bonjour si vous nous regardez en replay sur YouTube ou si vous nous écoutez en podcast, très heureux de vous accueillir dans cette très très belle émission. On va commencer comme chaque semaine, on a l'immense plaisir d'accueillir des personnalités d'internet qui nous inspirent, et ce soir à l'occasion du démarrage depuis hier de la saison 7 du Vortex, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Ronan et Charlotte. venez vous installer, chers amis. Bonsoir Charlotte, bonsoir Ronan, comment vous allez?
Bah écoute, ça va bien.
Tout roule?
Ouais.
Ça fait plaisir de vous accueillir sur le plateau de Backseat. Ronan, toi, tu es co-créateur, réalisateur, producteur et animateur du Vortex. T'as vu, ça en fait. Hein,
c'est... Ouais, mais c'est un peu comme toi, tu vois. Quand tu cumules plein de rôles.
Tu cumules plein de trucs. Tu es une personnalité d'Internet, finalement. Charlotte, toi aussi, tu es vulgarisatrice sur YouTube.
Ouais.
Tu es aussi chercheuse et réalisatrice de quelques épisodes.
Exactement.
Du Vortex. On va en parler. Le Vortex, justement, parlons-en. Mais avant de parler du Vortex, je voulais d'abord qu'on parle de vous. De vous tous les deux. Charlotte, comment est-ce que toi, tu te présentes? T'es vulgarisatrice, t'es chercheuse. Tu mets quoi en avant en premier?
Ça dépend de la situation.
Ouais,
on va dire un peu prise en étau entre la vulgarisation et la recherche. Je pense que justement, cette double casquette, elle fait que j'ai un regard peut-être un peu différent, autant sur la vulgarisation que la recherche, parce que je vais avoir un regard critique un peu sur les deux.
Donc toi, sur Internet, tu as une chaîne qui s'appelle La Langue de Chat. Les Langues de Chat, ouais. C'est ça? C'est quoi comme chaîne? Qu'est-ce qu'on peut y retrouver?
Alors, à l'origine, je parlais beaucoup de linguistique, puisque je faisais des études de didactique des langues, c'était l'enseignement des langues. Et puis, petit à petit, au fil de mes études, je me suis diversifiée dans mes sujets pour faire un peu... de la vulgarisation de sciences sociales de façon générale. Bon, là, ça fait un moment que je n'ai pas posté sur ma propre chaîne parce que je travaille aussi pour un magazine de sciences sociales qui s'appelle Monde Sociaux, avec une chaîne qui s'appelle Avide de Recherche, où là aussi, on est dans la vulgarisation de recherches récentes en sciences sociales.
Ok, d'accord. Ok, trop cool. À côté de toi, donc Ronan, toi, t'es un pilier d'Internet, du web français. Bah non, mais si, quand même. Tu le disais d'ailleurs quand on préparait l'émission, tu disais que t'as créé ton compte sur Dailymotion le jour de la sortie du site.
Le jour de la sortie du site, je l'attendais. Ouais.
Mais c'est énorme, ça.
Je crois que c'était en septembre 2007, ou un truc comme ça. Mais j'étais à attendre, à recliquer que ça se rafraîchisse pour créer un compte Dailymotion et faire « Ouais, je vais pouvoir uploader des vidéos en 360p !» C'est la folie! Un quart d'heure de vidéo! C'était fou.
Hein. C'était incroyable.
À l'époque, c'était fou. Hein.
Mais à l'époque, c'était complètement barré. Ouais. T'as fait partie des Media Makers?
Oui.
Ça, c'était le programme de soutien à la création de Dailymotion, c'est ça qui s'appelait les Media Makers? À l'ancienne!
À l'ancienne, exactement. Avec les vieux, t'en as eu quelques-uns ici.
T'as aussi bossé avec Usul.
Bah oui.
C'était sur JVC à l'époque. Ouais. Lui, il faisait le 36-15. Toi, tu faisais Speed Games.
Ouais, mais j'ai réalisé quelques 36-15. J'en ai fait une cinquantaine au début.
Pour, ah oui, quand même.
Bah, il fallait bien que quelqu'un tienne la caméra pour Usul.
Ouais, bah ouais, quand même.
Il y a eu Karim qui a fait les tout premiers épisodes. Et puis, on a déménagé. On a habité ensemble pendant quelques années. Donc, j'ai réalisé quelques épisodes avant que Dorian arrive. Et après, on a été un peu tous les trois. Et puis, au fur et à mesure, j'ai fait à Dorian. Tu veux pas réaliser? Parce que j'ai des trucs à faire.
Je crois qu'en régie, on a une vidéo, une de tes premières vidéos.
Non, faut pas faire ça.
Ah, si, on va carrément faire ça. Vous pouvez l'envoyer, s'il vous plaît.
Ah, on a du dossier.
Bonjour, c'est Real Me Up. Suite à la demande de nombreux internautes, je vais expliquer comment faire pour piloter un Vijing avec cette petite chose, un Wiimote et un Nunchuk. Donc, comme vous pouvez le voir, j'utilise un MacBook Pro. Je suis sous Mac OS X, la dernière version. Et j'ai un petit logiciel que l'on peut trouver sur le net qui s'appelle Osculator. Voilà.
Voilà, on est allé diguer, quoi.
Ouais, là, celle-là, elle est vraiment obscure. Vous êtes vraiment allé chercher très loin. C'est mon époque de...
C'est le web des années 2000, c'est génial.
Bah, c'est vrai. En plus, non, mais je présentais le travail que je faisais en tant que VJ, tu vois. Donc
t'étais VJ?
J'étais VJ dans la musique 8 bits, moi, tu vois. Donc les gens faisaient de la musique sur Game Boy et je faisais les vidéos derrière et je pilotais ces vidéos avec une Wiimote. Qui me permettait de faire interagir le public avec la vidéo derrière moi. Donc, c'est de la vidéo en temps réel. Et c'était cool.
Toi, Charlotte, on parlait de vulgarisation. Ça a toujours été une évidence pour toi que ce que tu allais faire sur Internet, ça allait être de la vulga, ou ça t'est venu comment?
Ouais, clairement. Bah, en fait, c'est la vulgarisation qui m'a poussée, de toute façon, à créer des choses sur Internet. Donc, c'est plutôt venu dans ce sens-là. D'ailleurs, c'était plutôt la question de « je veux faire de la vulgarisation ». Et de quelle façon, et Internet était le truc le plus pratique.
Bah ouais, carrément. C'est... Ouais, vas-y, vas-y.
Ouais, non, en fait, c'était vraiment le moment où on avait vraiment une multiplication des chaînes de vulgarisation qui était en train de se créer. C'était le moment où il y a eu Nota Bene, où il y a eu, par exemple, les revues de Monde.
Ouais.
Y penser, était déjà là depuis quelques mois. Il y avait aussi Doxa de Dani Caligula qui était déjà là à ce moment-là. Et donc, de voir un peu cette effervescence de plus en plus de personnes qui créaient des chaînes YouTube de vulgarisation, ça m'a aussi donné envie, en fait, de participer à cet élan. Et c'est à ce moment-là que je me suis lancée.
Bah écoute, c'est assez intéressant. Parlons-en justement de la notion de vulgarisation. J'ai l'impression que c'est un terme qui est arrivé avec Internet, comme si ça n'existait pas avant. Mais est-ce qu'il y a des programmes qui vous ont inspiré, des programmes télé par exemple, ou pas?
J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui vont te citer C'est pas sorcier quand on pose cette question-là.
C'est un bon exemple.
Alors évidemment, je pense comme beaucoup, je le connaissais, mais il y a le fait que moi je suis en sciences sociales.
Ouais.
Et il y a plutôt, du côté des sciences sociales, un manque, je trouve, de repères en termes de vulgarisation. On a beaucoup en fait, de diffusion des savoirs issus de la sociologie, de l'anthropologie, sous forme de livres. Et d'ailleurs, des livres qui s'adressent plutôt à des publics déjà un peu initiés.
Ouais, c'est vrai.
Quand tu vois les couvertures un petit peu austères, quand tu vois que c'est publié dans des collections universitaires, il faut savoir ce qu'on va y trouver. Et des trucs qui s'adressent vraiment à un grand public novice, il y en a très peu. Donc moi, c'était plutôt aussi ça qui m'a donné envie de me lancer, de me dire, mais qu'est-ce qu'il y a là-dessus en linguistique? Qu'est-ce qu'il y a là-dessus en sociologie, en anthropologie? Et essayer d'aller vers cette petite niche-là.
Et toi, Ronan, qu'est-ce qui t'a dirigé vers la vulga? C'est un élan personnel? C'est des inspirations?
Je pense que j'ai toujours aimé apprendre. J'ai toujours été assez curieux.
Ouais.
Parce que mes toutes premières sources, moi, c'est avant C'est pas sorcier, c'est tout ce qui était... Il était une fois la ville, il était une fois l'espace. Tous les programmes télé qu'on avait qui étaient incroyables, en fait, en termes d'apprentissage des sciences, vraiment. C'était assez cool. Moi, j'ai vraiment été très
passionné. C'était toujours dirigé vers les enfants. C'est ça aussi qui est particulier.
Oui, mais il y avait au moins des programmes pour enfants, pour éduquer à ce genre de choses. Et c'était assez incroyable. Donc moi, j'ai baigné là-dedans, parce que je suis un vieux, hein, pour ceux qui en doutent.
Wow, pas
mais
tant que ça.
Sur Internet, je crois que j'ai 400 ans. Hein. C'est...
Ah, sur Internet, par contre, c'est un dinosaure, je te le dis tout de suite.
Une année, c'est 10, tu vois. Donc
c'est pire que l'âge de chien.
Ouais, c'est horrible, c'est encore plus rapide. Mais ouais, donc il y a ça qui m'a beaucoup influencé. C'est pas sorcier un petit peu, mais en fait, pas tant que ça. Moi, ce qui m'a vraiment plu ensuite, c'est l'émergence aussi de Game One, tu vois, des télés un peu faites à la main, où les gens parlaient de leur passion et puis pouvaient être vraiment geek, tu vois, ou nerd. À l'époque, ça se faisait pas trop. Et nous, on est tombé avec mon collègue Cœur de Vandale à l'époque qu'on a monté notre émission en 2008 en se disant on va parler de tout l'assisted speedrun, tu vois, le truc vraiment bien de niche obscure pour le partager. Ça nous est venu assez naturellement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on faisait de la vulgarisation du jeu vidéo.
Ouais.
Et
oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai.
Et le jeu vidéo a démarré sur Internet plutôt parce qu'il n'avait pas d'espace médiatique. Il n'y avait pas de programme intéressant de jeux vidéo à la télévision à ce moment-là, ou très peu. Game One était déjà en train de s'effondrer.
Enfin, c'était déjà la fin de Game One.
Il n'y avait plus rien, donc Joueur du Grenier démarre à peu près aussi à cette époque-là. Mais la vulgarisation n'est pas arrivée. Elle n'est pas encore démarrée à ce moment-là. Mais quand elle arrive, moi tout de suite, je trouve ça génial et c'est du contenu que je consomme beaucoup. Comme je produisais déjà quelques contenus vidéo pour jeuxvideo.com et tout ça, ben, j'ai commencé en fait à faire la même chose que je faisais pour les copains, mais à produire des gens qui faisaient de la vulgarisation.
Est-ce qu'il faut forcément être un spécialiste de son domaine pour faire de la vulgarisation sur ce domaine, Charlotte? Toi, t'es chercheuse, en l'occurrence, donc il y a une légitimité particulière.
Mais je trouve qu'en fait, c'est deux rôles. En fait, tu vas avoir des avantages, des désavantages des deux côtés. En fait, quand tu vas vulgariser quelque chose qui est vraiment dans ton domaine, la difficulté, c'est de prendre le recul et de se mettre à la place de la personne qui n'y connaît rien.
Mmh.
Ou je pense que moi, par exemple, si je voulais vulgariser des éléments de ma thèse, j'ai beaucoup plus de mal à me remettre à la place des gens et à me dire, OK, on part d'où? Qu'est-ce qui peut intéresser les personnes? Qu'est-ce qui est évident, qu'est-ce qui ne l'est pas? Je vais des fois avoir cette tendance à utiliser des termes techniques sans même m'en rendre compte, parce que pour moi, ils sont évidents, je les utilise depuis des années. Alors que quand je découvre un domaine, par exemple, quand on travaille sur le vortex et que je me dis j'ai envie de toucher à quelque chose d'un petit peu différent, là, en fait, je retrouve un regard un peu plus neuf. Et donc, il y a plus cette identification à la place du public et essayer de retrouver ça. Et en même temps, là, la difficulté, c'est de réussir à replacer, par exemple, des recherches scientifiques dans un contexte plus global, et de se dire quelle est la validité de ce travail, quand on est face à des hypothèses un peu nouvelles, de les replacer dans le contexte scientifique général, de comprendre leur portée aussi. Et là, on va avoir le besoin, à mon avis, de se faire relire par des spécialistes. C'est un peu le truc qu'on dit tout le temps, mais c'est toujours nécessaire pour...
Toi, Ronan, c'est ça aussi qui vous a donné envie de créer le Vortex? Le Vortex, c'est ça? C'est une ambition de vulgarisation?
C'est une ambition de vulgarisation, de transdisciplinarité aussi. C'est que, en fait, de base, un YouTuber, c'est seul. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était justement de pouvoir les faire communiquer à travers un programme, grâce à Arte aussi, parce qu'il fallait quand même du financement, et on a la chance d'avoir cet accompagnement depuis 5 ans d'Arte, qui est assez incroyable en fait, sur une émission qui n'est diffusée que sur YouTube, elle n'existe pas en dehors de YouTube. Mmh. On est vraiment un truc expérimental un petit peu là-bas, et vraiment c'est ça qui nous a donné aussi beaucoup de liberté. Et vraiment de proposer en fait, aux vulgarisateurs une expérience qu'ils ne peuvent pas faire seuls. En fait. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faut que ce soit transdisciplinaire. Et on a aussi l'ambition qu'il y ait autant de garçons que de filles dans l'émission,
ouais.
Quelque chose d'hyper important. Et ça demande, c'est un challenge aussi de faire ça, en vulgarisation en particulier, parce que c'est quand même un milieu masculin. Ça l'a toujours été, hein. C'est pas, on subit comme tout le monde cette chose-là. Et puis bah, avec Charlotte, quand on s'est rencontrés, qu'on a commencé à discuter, c'est devenu une évidence que, bah, qu'elle allait avoir quelques vidéos à faire de son côté. Et puis elle est super complémentaire, elle n'a pas du tout les mêmes inspirations que moi pour retrouver deux vulgarisateurs à faire travailler ensemble.
On va en parler du Vortex. La saison 7 du Vortex a commencé hier avec la diffusion de la première vidéo. Je propose qu'on regarde la bande-annonce et on se retrouve juste après pour en parler.
Bonjour à tous, bienvenue au Vortex. Et ça y est, le son est de retour. Mais on a testé... Non, on a changé beaucoup de choses. Il y a des voitures. Il y a des voitures aussi, toujours. Ça, c'est un truc de youtubeur, il y a des voitures. Dans cette nouvelle saison, c'est pas facile à dire. Il y a eu beaucoup de changements. Ah, dommage. Mais ça fait longtemps quand même, hein. Bonjour à tous, ça y est, le Vortex est enfin de retour. Alors, ça a pris du temps, mais on a fait beaucoup de changements et dans cette nouvelle saison, on va tenter des choses. Et voilà, nos nouveaux locaux. Et oui, fini la colocation. Maintenant, on va tourner dans nos bureaux, là-haut. C'est ici qu'on invite les créateurs et créatrices de l'émission. D'ailleurs, en parlant de ça, il y en a plus. Genre, beaucoup plus. Bon, vous inquiétez pas, on fait toujours de la vulgarisation avec les meilleurs créateurs de YouTube. Mais pas que. Dernier point, les clés du Vortex seront données à d'autres présentateurs. Enfin, non, présentatrices pour le coup. Elles prendront ma place le temps de quelques épisodes afin de vous faire découvrir de nouveaux créateurs et des sujets passionnants. Chaque épisode est différent et on a hâte de vous faire découvrir tout ça. Et avant de se quitter, un petit amuse-bouche pour vous annoncer nos invités.
Voilà donc la bande-annonce du Vortex, et oui, la saison 7 qui vient de démarrer, je le disais. C'est quoi vos rôles tous les deux respectifs d'ailleurs sur la fabrication du Vortex ? Ronan, toi tu...
Alors moi je produis déjà,
ouais.
Donc c'est déjà pas mal de taf. Ensuite, globalement je réalise la plupart des épisodes que je peux présenter ou pas. Je peux intervenir dans l'épisode, souvent je sélectionne les créateurs et puis on discute pas mal avec Arte de qui on invite, pourquoi faire. Et puis, je ne pouvais pas tout faire tout seul, ce n'était pas notre souhait non plus. Et donc, j'ai demandé à avoir des co-présentatrices, co-réalisatrices qui viennent apporter leur vision, leur sensibilité aussi. Parce que je me dis, moi, je fais pas tout, quoi. Et c'est là où je suis tombé sur Charlotte et Whitney, que vous allez voir aussi dans un épisode.
Donc toi, Charlotte, tu as travaillé sur deux épisodes en particulier. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu ?
Alors, il y en a un qui est sur la thématique des charlatans du web, notamment autour de la figure de Thierry Casasnovas, qui est assez connu quand même sur Internet, où là, c'était à la fois l'idée de
son parrain. L'invité, il n'a pas voulu.
Ah,
donc,
c'est bizarre.
Ah, merde.
Ouais, un truc santé.
Avoir un point de vue sur une thématique d'actualité, une personnalité du web qu'on connaît, et essayer de comprendre en fait, les ressorts plus sociologiques et liés au numérique qu'il peut y avoir autour de ces figures de charlatans, qui... histoire de ne pas se limiter seulement aux aspects psychologiques, parce qu'on l'aborde souvent sous le point de vue des biais cognitifs, ce genre de choses. C'est un point de vue intéressant, mais qui est un petit peu limité si on parle toujours du même angle, enfin, sur le même sujet. Et donc là, on a croisé à la fois du témoignage aussi, parce que dans cette saison du Vortex aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que des gens qui viennent apporter une expertise, mais aussi des personnes qui ont plutôt un point de vue. Ça peut être du témoignage, ça peut être des personnes qui font plutôt de la création. comme d'ailleurs dans le premier épisode qui est sorti, on voit Sarah Coppona qui est plutôt à la création musicale. Donc là, on est plutôt sur du témoignage avec le collectif L'Extracteur et Maudit, plutôt côté sociologie. Et le deuxième épisode, on s'est intéressé aux produits de beauté, où je partais du constat qu'on a souvent cette mise en avant, par exemple des crèmes anti-rides qu'il faudrait mettre dès 25 ans, une injonction en fait, qu'on va faire surtout aux femmes, évidemment.
Ouais.
Et donc, ils croisent à la fois des enjeux scientifiques en disant, mais ces crèmes, est-ce qu'elles ont une véritable validité? D'où elles sortent? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Et en même temps, la question plus sociale derrière, de, en fait, qu'est-ce que ça nous dit de faire des pubs pour ce genre de produits dès 25 ans et des injonctions à la beauté et à la jeunesse.
Donc ça, c'est les deux épisodes sur lesquels toi, tu as bossé. À qui ça s'adresse, le Vortex? Vous connaissez le public un peu?
J'essaye, dans cette nouvelle saison, enfin j'essaye, je pense aussi avec Charlotte, de le rendre plus grand public.
Ouais.
Là, par exemple, le premier épisode, c'est un épisode de physique quantique, il n'y a pas de maths, il n'y a pas d'équations. Il n'y a pas de truc comme ça. Le but, c'est d'essayer de ressentir la physique quantique d'un point de vue émotionnel, musical. Et ça peut perturber, et je le comprends. On le voit dans les commentaires. Coucou les gens qui disent que c'était mieux avant.
YouTube, toujours des grands moments.
Non, mais on vous aime bien en vrai. Mais j'ai envie de leur répondre parce que c'est une vraie
question. Alors, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent il n'y a pas assez de maths?
Non, ils nous disent en gros, j'ai rien appris.
OK.
Pour plein de gens qui n'ont jamais fait de physique quantique, qui sont un peu détachés des sciences, je pense qu'ils ont appris beaucoup de choses. Tu vois, il y a déjà. Tu vois, vous connaissez l'expérience des deux fentes?
Oui.
Voilà, il y en a quand même plein, mais vous avez peut-être le détail.
Et c'est très particulier, oui.
Non, mais tu vois. Et donc, on fait ça avec. On la rend musicale. On essaye de la rendre musicale. Et en plus, c'est un peu le défi de l'épisode aussi. C'est que c'est pas forcément. Le but, c'est pas forcément de réussir, c'est de montrer la démarche aussi, de réussir à essayer de le faire, en fait. C'est ça aussi qui est intéressant. Et donc, je pense que le Vortex va essayer, dans tous les épisodes, ils sont différents. C'est un peu ça qui est aussi original. Le prochain épisode, c'est. Pas du tout ça, quoi. Vraiment,
vous changez volontairement de formule à chaque épisode.
Quasiment. Il y a trois grands thèmes. Il y a les épisodes comme là, qu'on a appelé les épisodes de création, qui sont les épisodes où on essaie de fabriquer quelque chose. Il y a les épisodes documentaires. Donc ça, c'est ce que vous aurez dans 15 jours sur le brutalisme.
Le modernisme soviétique.
Le modernisme soviétique, mais voilà, autour des bâtiments brutalistes.
Ouais.
Et le troisième, qui est plus des enquêtes, comme a mené justement Charlotte sur les charlatans du web.
Et du coup, chaque format Charlotte. Aussi a donc, en termes de réalisation, une patte un petit peu différente. Et c'était donc cette idée d'attirer des publics un peu différents qui, originellement, ne sont pas forcément des publics de la vulgarisation.
Ouais.
En fait, c'est aussi ça qui est nouveau dans cette saison de Le Vortex. Depuis le temps que ça existe, ça a permis.
Oui, ça renouvelle.
Ça renouvelle et ça permet aussi d'essayer de parler à d'autres gens qui ne connaissent pas la vulgarisation de façon générale.
Vous avez le soutien d'Arte pour ce projet. C'est pas trop galère à produire, à financer surtout un projet.
Elle est là-bas, je peux rien dire. Non, en vrai, c'est. Alors, c'est très dur à financer.
Ouais.
Heureusement qu'on a Arte. C'est sûrement C'est un soutien incroyable. Vraiment, on a une chance parce que c'est à la fois financier, mais pas que. Il faut bien comprendre qu'ils nous accompagnent tout au long des épisodes. On peut avoir des discussions autour des invités, les sujets qu'on va sélectionner, les angles qu'on va aborder. On peut discuter de la vignette. Vraiment, tout est pris. C'est pas juste les thunes. On a le CNC qui nous accompagne aussi, qui est un élément important pour nous.
Pour le financement, oui.
Et puis Orange, qui est un partenaire aussi, et puis une marque de bureau assis debout, qui est partenaire de cette saison incroyable.
Non, mais c'est cool, bravo.
Non, mais voilà.
Je sais combien c'est compliqué de trouver des partenaires sur de la vulgarisation.
A cette particularité d'être gratuit, sans publicité, sans sponsor, sans financement participatif. C'est une émission que je veux de service public, qui soit gratuite et accessible à tous, sans que quiconque ait besoin de dépenser quoi que ce soit pour que ça existe. Donc c'est dur, donc c'est compliqué, et on est toujours un peu en PLS de thunes en fin de saison, mais bon, ça, c'est la vie de la création et de la vulgarisation en particulier.
Charlotte, est-ce que vous avez carte blanche pour le fond de ce que vous abordez sur la vulgarisation?
Oui, clairement. En fait, on va proposer les sujets, il y a forcément une validation d'Arte, etc., mais... Ouais. Enfin, moi, j'ai...
Une validation. En fait, souvent, c'est un échange. Quoi.
Oui, c'est plus c'est-à-dire, un échange. C'est pas, voilà,
c'est pas un comité de censure.
Non, c'est l'inverse, en fait. C'est plus... Ouais, c'est bien, mais...
C'est plutôt d'y réfléchir ensemble. Oui. On fait une proposition, on va pouvoir en discuter, et se dire, bon...
Tes sujets ont été validés tellement vite. C'était bien, d'un coup, je fais... Puis moi, tu vois, j'aurais pas fait les produits de beauté, perso. Ça me parlait pas.
Ça m'étonne pas en te voyant.
Tu vois. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu vois, je les aurais pas fait. Ni les charlatans du web. C'est pas du tout des idées que j'aurais eues. Et quand on les a proposées, instantanément, ça a été. Ils ont
trouvé ça. C'était plus un, en fait, c'est plus un accompagnement pour réfléchir à l'angle, à faire attention à certains éléments. Par exemple, sur les charlatans du web, c'était dans le propos de ne pas donner l'impression que les personnes qui se feraient avoir par des charlatans seraient stupides, etc. Alors que justement, c'était le propos qu'on voulait éviter. Donc.
On était d'accord.
Pourquoi est-ce que c'est important en 2023 de continuer à faire la vulgarisation sur Internet ?
Je pense que la science, elle est assez malmenée en général. Le savoir est malmené. La consommation du visuel, je ne sais pas exactement. Mais la vulgarisation, c'est dur. C'est un exercice difficile. Et je pense que c'est vraiment bien. Enfin, c'est un des derniers espaces audiovisuels où on peut vraiment apprendre des choses. J'ai l'impression qu'à la télévision, il ne reste plus beaucoup de programmes de science. Je crois qu'il reste les gars M6 qui doit encore un peu exister, qui est un peu un mélange d'actu, voilà, mais il n'y a plus vraiment d'émissions scientifiques. La radio un petit peu, mais ce n'est pas non plus la folie, quoi. Et donc la vulgarisation, c'est un peu fait sa niche, je pense, sur le web. Un peu comme moi je fais souvent le parallèle avec le jeu vidéo, parce qu'en vrai c'est un peu le cas. Le jeu vidéo qui n'existait pas sur la télévision, on voit maintenant où il est sur Twitch ou sur YouTube.
Sur YouTube, oui, bien sûr. Non, évidemment.
Et ça permet, je pense, à plein de gens de découvrir des sujets qu'ils n'auraient jamais eu l'occasion de découvrir.
Je pense qu'il y a aussi l'intérêt Charlotte. Je pense qu'il y a aussi cet intérêt de mettre les sciences en culture, en fait, en se disant on n'est pas au musée, on n'est pas non plus dans un congrès scientifique ou ce genre de choses. On est vraiment dans finalement une niche culturelle et de présenter les contenus scientifiques comme un contenu culturel parmi d'autres, de la même manière qu'on pourrait se renseigner sur l'art, sur le jeu vidéo. Enfin, on peut aussi vulgariser le jeu vidéo, mais c'est un autre rapport à la culture. Et donc, créer un intérêt chez des publics, les amener vers ce sujet et juste en fait, occuper un terrain, hein, je pense, en proposant et pas en imposant.
Chaque semaine, quand on a le plaisir de recevoir des créateurs et des créatrices de contenu, on leur donne l'opportunité de venir nous présenter une assoc, un collectif, une cause, quelque chose qui leur tient à cœur. Cette semaine, on vous a proposé de venir nous présenter quelqu'un et j'ai l'immense plaisir de vous inviter à accueillir sur ce plateau Sylvain Radix. Salut Sylvain.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté de venir sur le plateau de Backseat.
Merci de l'invitation.
Tu vas nous présenter ce que tu fais. Tu es dans une association qui s'appelle Electrolab.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est ?
Ce qu'on fait, alors nous sommes une association culturelle dont l'objet est le partage et la diffusion des connaissances et des savoir-faire.
Bien dans le micro, s'il te plaît.
Dont l'objet est le partage et la diffusion des connaissances et des savoir-faire dans le domaine des sciences et des techniques.
Ok.
Donc on est complètement dans le prolongement de ce dont on parlait tout à l'heure. Voilà, et donc on est avec vraiment une approche centrée sur le faire et échanger.
Vous êtes basé à Nanterre, c'est ça ?
On est basé sur Nanterre, c'est ça.
C'est un hackerspace.
C'est ça.
Ça veut dire quoi ?
Alors, c'est un endroit où on pratique le hack. Avec ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Alors, qu'est-ce que le hack ? Ça vient de la scie, une hacksaw, c'est une scie à métaux, ou hacher des choses. Donc en fait, on va prendre les objets, on va les ouvrir, on va ouvrir la boîte noire pour comprendre comment c'est fait, refaire scier l'objet, le comprendre et en faire autre chose, ou pas d'ailleurs.
C'est quoi la différence avec un Fab Lab ?
Un hackerspace, c'est avant tout, alors c'est centré sur une communauté, c'est vraiment cette idée de comprendre avant le fondement des choses. Un Fab Lab, à la base, c'est un lieu de fabrication distribué.
D'accord, voilà. Ok.
Tout ça a évolué depuis, mais voilà. C'est sur le fondement de l'approche.
Okay. Voilà. Ronan, pourquoi tu as voulu nous présenter Electrolab ?
Bah parce qu'on a été tourné chez eux.
Ah.
Et oui, on a eu la chance avec Monsieur Bidouille qui a travaillé déjà avec l'Electrolab de faire. Il avait fait une vidéo et puis quand on a eu Bidouille dans le Vortex, je lui ai dit je peux pas vous spoiler l'épisode parce que vraiment faut pas. Mais on pouvait pas le faire sans eux. Vraiment, okay. Et Sylvain nous a accueillis, j'ai trouvé le lieu incroyable. Il m'a raconté un peu tout ce qu'il faisait là-bas, j'ai fait « mais vous êtes des grands malades !» Nous, on faisait vraiment un truc ridicule par rapport aux capacités de l'Electrolab, quoi. Et quand tu nous as proposé en tout cas d'inviter une asso, j'ai assez peu hésité à faire venir Sylvain. Ouais.
On a quelques images du coup d'Electrolab à Nanterre. Un truc qu'il faut préciser pour ceux qui savent pas, c'est la taille du truc. C'est absolument phénoménal. Vous avez des machines absolument énormes dans ce hackerspace.
C'est une des richesses du lieu parce qu'en vrai, l'identité du lieu, c'est la pluridisciplinarité, la pluritechnicité. Avoir des gens de tous les horizons techniques et non techniques, voilà, de niveaux différents, de cultures différentes, et qui vont venir faire et échanger. Et du coup, pour accompagner ça, pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir expérimenter, apprendre avec l'objet qui est la technique, faut des ateliers. Donc du coup, faut de la mécanique, faut de quoi faire de la couture, faut de quoi faire de l'électronique, parfois de quoi faire de la microélectronique, voilà, parfois de faire de la nanotech, il y a de quoi jouer aussi. Donc voilà, donc c'est, il y a de la fonderie, il y a de tout. Donc ouais, il y a 1500 m² d'atelier.
Non, c'est énorme. Divers.
Et surtout, on parlait tout à l'heure d'avoir des lieux où on fait, des lieux vivants. Et là, c'est l'idée, c'est d'avoir le lieu vie, des zones naissent, vivent, meurent. Et ça se renouvelle au fur et à mesure de ce que font les gens.
Et ça s'adresse à quel public ? Parce que est-ce que c'est possible d'y aller si on est un total néophyte, qu'on n'y connaît rien au fonctionnement des choses ? Justement, c'est pour apprendre ?
C'est, l'idée, c'est vous êtes membre, vous êtes chez vous, et c'est pour faire, découvrir et échanger. Il n'y a pas de question de « ouais, mais je ne sais pas faire, mais moi je suis littéraire, est-ce que j'ai le droit de m'intéresser à la technique ?» Évidemment que oui, tout le monde est le bienvenu. Voilà, c'est le... Et si vous avez envie de vous intéresser, si vous avez envie de venir voir et autres, venez, n'hésitez pas. Electrolab ou d'autres lieux, hein, si vous n'êtes pas en Ile-de-France. Mais voilà.
Je crois que tu nous disais, quand on préparait l'émission, que le président d'Electrolab était un néophyte total au début.
Alors, le président de actuel d'Electrolab, voilà, n'est pas quelqu'un de formation, il est commercial, il n'est pas de quelqu'un issu du monde de la technique. Voilà, donc on peut tout à fait...
Bon, et du coup, dans quelle démarche est-ce qu'on vient d'habitude ? C'est pour faire réparer un objet qui ne marche plus ? C'est quoi ?
Alors, pour faire réparer un objet, non, parce que la seule chose qu'on ne fait pas, c'est faire à la place des gens.
D'accord.
L'idée, ça va être que les gens puissent se réapproprier les techniques, les savoir-faire, pour qu'ils puissent faire eux-mêmes. Voilà. Donc, les gens, ils arrivent parfois avec des projets à eux, parfois 200 projets à eux, parfois avec pas de projet spécifique du tout, et ils vont du coup intégrer un projet de l'association ou un projet d'un groupe, ou parfois ils viennent juste pour échanger, pour découvrir. Et ça peut évoluer aussi. Des gens arrivent avec un projet, puis ils finissent avec 200 projets.
Je crois que tu es venu avec un objet que tu voulais nous présenter. C'est un truc que vous avez fait à Electrolab ?
Ouais, alors c'est une illustration de jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut aller en amateur. Voilà. Et ça va être. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est le modèle d'ingénierie d'une carte de télécommunication pour un nanosatellite.
Ah oui, quand même.
Voilà, donc ça a été fait par des amateurs de l'Electrolab et de l'AMSAT, aussi, qui est une autre association là-dedans, avec du support industriel de Paradrelis. Donc à nouveau, ajouté à cet aspect de transdisciplinarité, de genre de culture différente aussi, des gens du monde de l'entreprise, et le Latmos, qui est un laboratoire du CNRS, qui a permis d'embarquer la charge utile, parce que du coup, sa sœur est maintenant en orbite depuis mars dernier. Voilà. Donc
ça, c'est le jumeau d'un truc qui est actuellement dans l'espace.
Exactement, voilà.
Wow.
Et c'est fait... en open source, en open hardware, tout est disponible, c'est reproductible, et c'est avant tout un objet pédagogique pour le faire, mais ensuite expérimenter avec les modes de modulation, les logiciels au sol, etc., etc.
Et à quoi ça sert, en l'occurrence, ce satellite-là ? Tu peux nous expliquer un peu ?
Alors, la mission principale du satellite, c'est de faire de la mesure de rayonnement de la Terre.
Ok.
Pour étudier, en gros, pour affiner les modèles de réchauffement climatique. Voilà. Donc c'est avant tout un satellite de recherche, un satellite universitaire. Et il restait un peu de place sur le satellite, et donc l'Atmos nous a proposé d'embarquer une carte, et on les en remercie. Et ils ont même participé aussi au financement de la carte pour la fabriquer.
Mm-hmm.
C'est une somme. Et du coup, voilà, ça a permis de...
C'est du bénévolat à l'Electrolab quand on vient...
C'est du bénévolat. Ouais.
Voilà, ok, d'accord. Il y a même des entreprises qui sont membres d'Electrolab, tu peux nous en parler ?
Alors, tout à fait. Si 95% des membres sont là sur un mode loisir, on a aussi des gens qui viennent pour travailler. Voilà. La chose auquel on tient, c'est qu'ils restent membres. Voilà, ils ont les mêmes droits et devoirs qu'un membre. Ils ont une voix en vote à l'AG. Et on a la chance d'avoir des gens qui jouent le jeu du faire et échanger. Et ce, du porteur de projet jusqu'au grand groupe qui passe. Voilà. Et donc, ça vient enrichir l'écosystème à nouveau pour avoir aussi cet aspect culture industrielle, pour mettre les mains dans le cambouis, savoir comment ça fonctionne la technique, mais aussi l'industrie. Avoir des gens de l'industrie permet d'avoir ce retour, cet aspect vivant.
Charlotte, toi, tu es déjà allée dans un hackerspace ?
Je suis allée dans un Fab Lab, qui est le Fab Lab de la Cité des Sciences, qui est en bas, un petit peu caché, etc.
Et tu as fait quoi ?
Moi, je venais pour un festival de vulgarisation scientifique en partenariat avec une association qui s'appelle le Café des Sciences, qui regroupe un ensemble de vulgarisateurs, vulgarisatrices sur Internet. On faisait un petit...
On a failli vous inviter, on vous aime bien aussi. Hein. C'est juste que vous n'étiez pas dans la saison du Vortex.
Écoute, Et en fait, bah, là...
T'as bien raison.
Là, l'idée, c'était de parler justement plutôt vidéo. Donc, en fait, là, c'était un peu comment on utilisait différents outils. Même, par exemple, comment fabriquer soi-même un prompteur quand on n'a pas l'argent.
J'ai vu quelqu'un dans le chat qui demandait trop bien, est-ce qu'il y a la même chose à Lyon ? Comment est-ce qu'on fait pour vous rejoindre quand on n'habite pas à côté de Nanterre ?
Alors, pour trouver un lieu, on peut chercher... Alors, sur l'Hackerspace, il y a hackerspaces.org. Pour les Fab Labs, il y a le réseau français des Fab Labs en France. Mais sinon, si on cherche Hackerspace, Makerspace... tiers-lieu, voilà, laboratoire ouvert dans son moteur de recherche préféré, on va trouver un lieu à côté de chez soi. Lyon, il y a au moins 4 hackerspaces et je ne sais combien de Fab Labs.
Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut venir simplement pour visiter si on n'a pas de projet particulier ?
Tous les mardis soirs à 20h.
Tous les mardis soirs à 20h. Et si on a peur parce qu'on n'y connaît rien et qu'on ne connaît personne à l'intérieur, on est bien accueilli quand même ?
Je suis 06 si tu veux.
Avec du café.
Tu me donneras.
On le balance sur le chat maintenant.
C'est ça. Voilà.
Ok, d'accord. Je crois qu'on vous retrouve aussi sur Twitch.
Oui, on fait régulièrement, enfin toutes les deux semaines, le jeudi soir, des conférences qui sont très variées. Ça va de comment fonctionne la 5G à l'apiculture, en passant par l'archivage numérique ou voilà, parfois pourquoi les maths c'est dur. Voilà, c'est très varié. Parfois des streams sauvages de mécanique à des heures improbables. voilà, ou des.
C'est les meilleurs.
Voilà. Et il ouais, y a aussi d'autres membres de l'association qui stream aussi, parce qu'on a la chance d'avoir dans les résidents et dans les membres, par exemple, Woody Lutry ou l'ODEM, voilà, qui est céramiste et donc qui stream beaucoup aussi. Voilà. Donc il y a aussi tout un environnement de gens qui participent à diffuser ça.
Vous avez tous les liens qui sont mis dans le chat. Puisqu'on parle de liens, où est-ce qu'on peut vous retrouver, Ronan et Charlotte ?
Enfin, Fougères.
Alors, Fougères, très jolie ville en Bretagne, effectivement, mais sur les internets.
Ah, en vrai moi, principalement, bah, c'est sur le Vortex, hein, si vous voulez me voir.
C'est la chaîne YouTube.
C'est la chaîne YouTube Le Vortex. Les enfants font que je stream beaucoup moins. J'en suis désolé à tous ceux qui aimaient bien mes streams. J'aimerais bien reprendre, mais là, c'est compliqué. Et puis, je suis un petit peu sur les différents réseaux, Atriel Myope, vous pouvez chercher tout ça.
Atriel Myope, et toi, Charlotte,
moi,
où est-ce
Twitter,
qu'on te retrouve ?
Instagram, après, sur YouTube, il y a Les Langues de Chat, et plutôt en ce moment sur Avid de Recherche.
Avid de Recherche, évidemment, n'hésitez surtout pas.
Jeu de mots incroyable qu'on doit d'ailleurs à Manon Bril.
C'est Manon qui avait créé Avid de Recherche, ouais. Et toi, du coup, Sylvain, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Alors, electrolab.fr, voilà, Twitter, donc electrolab.fr, ou Twitch, electrolab Hackerspace.
Electrolab Hackerspace. Merci beaucoup à tous les trois. C'est la fin de cette première
session. On se fait un générique et c'est reparti pour le début de l'émission Maxi.